VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Georges Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du vendredi 8 décembre 2023. Au Burundi, l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, condamné à la perpétuité pour avoir voulu renverser le gouvernement. En Sierra Leone, l'ancien président Ernest Bai Koroma, entendu par la police dans le cadre de son enquête sur la tentative de coup d'État manquée du 26 novembre. Élection législative partielle demain au Zimbabwe, l'opposition écartée, le pouvoir vise la majorité des deux tiers au Parlement. En RDC, la presse se prépare pour la couverture des élections du 20 décembre.
Il y a beaucoup de difficultés de déplacement, que ce soit même ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Donc, les journalistes, comme tous les Congolais, éprouvent des difficultés pour accéder soit au site. Et nous avons un problème également de transport aérien.
Jean-Marie Kasamba, président de l'Union nationale de la presse du Congo, dévoilera dans la partie magazine les dispositions arrêtées. Après une pause, la COP28 a repris ses travaux ce vendredi. Les discussions achoppent toujours sur la question des énergies fossiles. En Russie, Vladimir Poutine annonce sa candidature à la présidentielle de 2024. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Burundi, la Cour suprême a condamné aujourd'hui à la prison à vie le premier ministre déchu Alain Guillaume Bunyoni. Il était accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement et d'avoir menacé la vie du président Mouamadou Moufa.
Alain Guillaume Bunyoni, dont le procès s'est ouvert il y a 3 mois, a été condamné à la prison à vie pour complot contre le chef de l'État pour renverser le régime constitutionnel, a déclaré une source judiciaire sous le couvert de l'anonymat. Le général d'armée était aussi accusé d'avoir eu recours à la sorcellerie pour menacer la vie du chef de l'État, d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale, d'avoir déstabilisé l'économie et de s'être enrichi illégalement. Il avait plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et déclaré qu'il devait être acquitté en raison du manque de preuves. Le tribunal de Gitega, la capitale politique, a aussi ordonné la confiscation de 4 de ses maisons et bâtiments, un terrain et 14 de ses véhicules. Ancien chef de la police et ministre de la Sécurité intérieure et proche de l'ancien président Pierre Nkurunziza, M. Bunyoni a été premier ministre de 2020 à septembre 2022, date à laquelle il a été limogé peu après que le président Evariste Ndayishimiye a mis en garde contre un complot de coup d'État à son encontre.
L'ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma s'est présenté aujourd'hui à la police à Freetown pour être entendu sur les événements du 26 novembre que le gouvernement a qualifié de tentative de coup d'État. Nani Talani.
L'ancien président Ernest Bai Koroma est arrivé ce matin au département des investigations criminelles de la police sous fortes escortes militaires et policières. Quelques dizaines de ses partisans étaient déjà sur place. La durée de son audition n'a pas été précisé. Le prédécesseur de l'actuel président, Julius Maada Bio, a été convoqué hier jeudi pour se rendre dans les 24 heures à la police à Freetown en rapport avec l'enquête en cours sur les incidents du 26 novembre. Je garde l'esprit ouvert et me tiens prêt à coopérer pleinement avec la police. L'état de droit doit régner en maître dans notre démocratie, a dit Bai Koroma, qui a dirigé la Sierra Leone de 2007 à 2018. Il a appelé au calme et demandé à la population de soutenir les investigations de la police. Les autorités sierra-léonaises soupçonnent d'anciens gardes de M. Koroma d'avoir participé aux troubles du 26 novembre. Des hommes avaient attaqué une armurerie, 2 casernes, 2 prisons et 2 postes de police. Les combats ont fait 21 morts, dont 18 membres des services de sécurité et 3 assaillants. 71 personnes ont été arrêtées en lien avec ces événements, indique le ministre de l'Information, Chernor Abba.
Le Zimbabwe tient des législatives partielles demain. La quasi-totalité des candidats de l'opposition ont été interdits de participer à ces élections. Selon les observateurs, le président Emmerson Mnangagwa cherche à s'assurer un long règne sans partage. Yakuba Ouedraogo.
Les spécialistes sont d'avis que ces élections partielles sont la première étape d'une manœuvre du pouvoir pour rafler la majorité des 2/3 au Parlement, avec en ligne de mire une modification de la Constitution qui permettra au chef de l'État zimbabwéen de prolonger son règne en abattant la limite de 2 mandats présidentiels. Deux mois après les élections générales d'août dernier, dont la régularité a été mise en doute, 14 députés de l'opposition ont été démis, ouvrant la voie à ces législatives partielles dans 9 circonscriptions ce samedi. Et hier, à 2 jours du scrutin, un tribunal de Harare a ordonné que 8 des 9 candidats du premier parti d'opposition, la coalition des citoyens pour le changement, soient interdits de se présenter. Cette situation sape tout espoir de démocratie au Zimbabwe, estime Nick Cheeseman, professeur de politique africaine à l'Université de Birmingham. La ZANU-PF, le parti au pouvoir, a nié toute machination. « Nous avons une opposition irresponsable, égoïste et en état d'implosion », déclare Farai Marapira, le porte-parole du parti.
Le gouvernement zambien a demandé aujourd'hui aux familles de la trentaine de mineurs recherchés après l'effondrement d'une mine de cuivre il y a une semaine de garder espoir en s'engageant à poursuivre les recherches jusqu'au bout. La mine à ciel ouvert où il a eu lieu est située dans la région de Shingola. Elle s'était affaissée après avoir envahi le vendredi 1er décembre par une coulée de boue provoquée par des pluies torrentielles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les combats entre l'armée israélienne et le Hamas font rage ce vendredi à Gaza avant un vote extraordinaire à l'ONU sur un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain a déclaré qu'un fossé séparait les intentions déclarées du gouvernement israélien de protéger les civils et le nombre de victimes, la critique la plus sévère prononcée publiquement par Anthony Blinken à l'égard de l'État hébreu. À 4 jours du dénouement, les négociateurs du monde entier débattent aujourd'hui à la COP28 à Dubaï de l'avenir du pétrole, du gaz et du charbon. Ils tentent de trouver un compromis entre l'impératif scientifique de sortie des énergies fossiles et le nécessaire développement économique des pays émergents. Davantage avec Jacques Aristide.
Le dernier projet d'accord a été rendu public cet après-midi avant la clôture prévue de la COP mardi prochain. Sur les énergies fossiles, au cœur des pourparlers, 5 options sont désormais proposées, dont celle de n'avoir aucun texte ou encore une sortie des énergies fossiles alignée sur les meilleures connaissances scientifiques disponibles. Sultan Al-Jaber, le président émirati de la COP28 et patron de la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, répète que la réduction de la place faite au charbon, gaz et pétrole est inévitable. Il est certain que le déclin de la consommation d'énergie fossile va se produire à terme, a-t-il martelé aujourd'hui. Toutefois, Sultan Al-Jaber s'est à nouveau dit réaliste et pragmatique. Nous devons être justes, nous devons être équitables, nous devons être ordonnés et responsables dans la transition énergétique, a-t-il ajouté. Chaque jour, des rassemblements animent les allées de la COP28, l'occasion pour de jeunes militants comme l'Ougandaise Vanessa Nakate d'appeler à la fin des énergies fossiles.
La température moyenne mondiale pourrait temporairement franchir en 2024 le seuil de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels, a déclaré aujourd'hui le service météorologique britannique, ce qui pourrait tirer la sonnette d'alarme lors du sommet COP28 à Dubaï. Vladimir Poutine a annoncé être candidat pour un 5e mandat à la présidentielle du 17 mars en Russie. Sa réélection fait peu de doute après près d'un quart de siècle au pouvoir et le musellement de toute opposition.
À une autre époque, j'ai eu d'autres pensées concernant cette question, mais je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix possible. Je vais donc me présenter au poste de président de la Russie, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. Le président de la Chambre basse du Parlement, Vyacheslav Volodin, a réagi sur Telegram en insistant sur les qualités uniques de Poutine, tandis que son homologue à la Chambre haute, Valentina Matvienko, estime que le chef de l'État ne fuira jamais ses responsabilités. Le président russe, qu'une révision constitutionnelle de 2020 autorise à se faire réélire, peut se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036, l'année de ses 84 ans. Aucun opposant russe ne devrait être en mesure de se présenter au scrutin. Les autorités écrasent depuis des années toute opposition. L'élection va se dérouler du 15 au 17 mars, peu après le 2e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. L'élection aura d'ailleurs lieu dans les régions ukrainiennes annexées par la Russie, où la loi martiale est toujours en vigueur.
Le nombre de meurtres et autres homicides volontaires a atteint un niveau record dans le monde en 2021, en partie à cause du stress et des pressions économiques liées au confinement durant la crise du Covid-19, selon un rapport de l'ONU publié aujourd'hui. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nathalie Barge.
En marge de la COP 28 à Dubaï, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a estimé que les pays africains devraient être exemptés de la taxe carbone européenne, risquant d'engendrer 25 milliards de dollars de pertes annuelles pour le continent en limitant ses exportations telles que le ciment, le fer, l'acier, l'aluminium et les engrais. Monsieur Adesina a par ailleurs souligné que l'Afrique doit utiliser le gaz naturel comme combustible de transition pour stabiliser ses systèmes énergétiques et soutenir l'industrialisation. Le géant minier sud-africain Sibanye-Stillwater a annoncé hier la construction de deux projets d'énergie renouvelable, un parc éolien de 103 MW dans la province du Cap-Occidental qui entrera en service fin 2025 et une centrale solaire photovoltaïque de 150 MW financée par le groupe Sola. Neil Fronman, PDG de Sibanye-Stillwater, a déclaré que ces projets vont contribuer à résoudre la crise de l'électricité tout en facilitant l'atténuation du changement climatique. Au Togo, la ministre de la Promotion de l'Investissement, Manuela Santos, a organisé hier une rencontre en vue d'améliorer la qualité de la main-d'œuvre pour les investisseurs. Des représentants du patronat d'associations professionnelles et autres entrepreneurs du secteur privé ont discuté de la formation des jeunes. En début des travaux, la ministre a souligné que l'identification des besoins permettrait d'améliorer les initiatives en cours pour l'élaboration du curriculum de formation adaptée.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Rouget, bonsoir à tous.
Début aujourd'hui des matchs de la troisième journée de la Ligue africaine des champions.
Oui, les Ghanéens de Médéama veulent enchaîner face aux Young Africans. Les Égyptiens d'Alali affrontent les Algériens du CRB Louis Dade et les Tunisiens de l'Étoile du Sahel font face aux Soudanais d'Al Ali Ondourman. À suivre demain, Swaneng Galaxy du Botswana ASEC d'Abidjan, FC Nouadhibou de la Mauritanie, tout puissant Mazembe de la RDC, l'Espérance de Tunis fait face au Petro de Luanda et le Wydad Casablanca accueille Simba SC de la Tanzanie.
Achraf Hakimi confronté à une femme qui l'accuse de viol.
Ce matin s'est tenue une confrontation entre le mis en examen et la victime de 24 ans qui l'avait accusé en mars dernier de l'avoir violée quelques jours plus tôt, indique le parquet de Nanterre. En mars, selon une source policière, la jeune femme a raconté avoir fait la connaissance de l'international marocain en janvier sur le réseau social Instagram et s'être rendue un samedi chez lui dans un taxi commandé par le joueur. Elle affirme qu'Achraf Hakimi a commis des attouchements sans son consentement avant de la violer. Ma cliente maintient l'ensemble de ses déclarations et s'est constituée partie civile dans ce dossier, assure l'avocate de la victime, maître Rachel Fleur Padro. Achraf Hakimi dément les accusations et dit faire l'objet d'une tentative de racket.
Le Comité international olympique admet les Russes et Bélarus sous bannière neutre.
Mettant fin à 9 mois de suspense, le CIO autorise les sportifs russes et bélarusses à participer sous bannière neutre au JO 2024 de Paris. Seuls seront concernés les sportifs individuels neutres qui ont pu franchir l'obstacle des qualifications, ne soutiennent pas activement la guerre en Ukraine et ne sont sous aucun contrat avec l'armée ni avec des agences de sécurité nationale. 11 d'entre eux remplissent pour l'heure ces critères, soit 8 Russes et 3 Bélarusses. Précise le CIO dans un communiqué contre une 60aine d'Ukrainiens déjà qualifiés pour les Jeux de Paris prévus du 26 juillet au 11 août 2024. Hier, le ministre ukrainien des Sports par intérim, Marviv Bidny, expliquait ne pas vouloir de Russes et Bélarusses aux JO de Paris, estimant leur drapeau neutre taché de sang et redoutant que le sport ne serve des fins de propagande militaire.
La finale de la Coupe NBA va opposer Indiana aux Los Angeles Lakers.
Les Indiana Pacers sont venus à bout des Milwaukee Bucks 128 à 119 en demi-finale de cette nouvelle compétition de la NBA. Indiana va jouer la finale samedi à Las Vegas contre les Lakers. Impérial a bientôt 30 ans, le King Ray Brown James a permis à ces Los Angeles Lakers d'écraser les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 133 à 89. Le quadruple champion NBA meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue avait prévenu dès le départ qu'il se verrait bien amasser un nouveau trophée avec cette coupe NBA, créé plus tôt cette année pour dynamiser la saison régulière. Toutes les rencontres de la Coupe NBA, sauf la finale, comptent aussi pour la saison régulière.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les autorités s'engagent à faciliter la couverture médiatique des élections du 20 décembre prochain. Des dispositions ont donc été prises pour aider les journalistes et la presse dans son ensemble. Pour en savoir davantage sur ces dispositions et les partages des temps d'antenne entre les candidats, Antoine Roger Bolamba, adjoint à Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, il est le président de l'Union nationale de la presse de la RDC.
Les journalistes font leur travail comme les lois et la constitution de la République démocratique du Congo permettent tout cela. De quelle manière nous sommes un quatrième pouvoir qui exerçons notre métier d'informer objectivement l'opinion. Bien évidemment, nous travaillons en ce qui concerne l'INPC en collaboration avec les institutions de la République, notamment le structure d'appui à la démocratie comme le CESAC qui assure la régulation des contenus des médias. Nous nous assurons la gestion et l'encadrement des journalistes et nous faisons notre travail en toute liberté, pour ne pas dire en sollicitant auprès des pouvoirs publics l'espace d'expression qui nous est dû par la Constitution. Donc pour le moment, ça se passe plutôt bien, sauf quelques cas de brimades et d'interdictions ou d'arrestations comme celle de Stanislas Jacquera qui est encore en prison jusque-là.
Alors, quelles sont les difficultés selon vous que les journalistes éprouvent actuellement pour accéder au bureau des votes par exemple?
La CENI est en train d'organiser les accréditations qui sont ouvertes déjà pour tous les journalistes qui seront accrédités pour la couverture de ces élections. Ça s'est fait soit ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Mais depuis là, la CENI travaille en collaboration avec beaucoup de médias qui ont déjà accrédité leurs journalistes là-bas. Ils font le travail au quotidien et il y a une collaboration entre la CENI et les différents patrons de presse. D'ailleurs, pas plus qu'il y a deux jours, nous avons dîné avec le président Kadima qui nous a tenu informés de l'évolution du processus.
Que pensez-vous des difficultés des routes, des difficultés d'accès à un véhicule dans certains coins de la capitale alors que les journalistes doivent arriver un peu partout pour vérifier, couvrir les élections?
Bon, vous savez, le Congo est un pays très enclavé. Il y a beaucoup de difficultés de déplacement, que ce soit même ici à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Donc, les journalistes, comme tous les Congolais, éprouvent des difficultés pour accéder soit au site. Et nous avons un problème également de transport aérien. La compagnie nationale n'a qu'un ou deux avions. Le Congo est immense. Il n'y a pas suffisamment de routes. Donc, comme tous les Congolais, évidemment, les candidats eux-mêmes, il y a beaucoup de difficultés à joindre les villes des provinces, mais bon, chacun essaye de se débrouiller comme il peut. L'essentiel est que l'information passe, notamment avec maintenant les moyens de télécommunication, les multimédias qui permettent le transfert des éléments sans pour autant se déplacer.
Comment trouvez-vous les candidats? Ont-ils accès tous au même temps d'antenne à la chaîne nationale, par exemple?
Non, ça ne se passe pas très bien de ce côté-là, parce qu'il y a une couverture déséquilibrée, notamment par la chaîne nationale de cette campagne. Le candidat numéro 20 monopolise quasiment, je pense, les antennes.
Jean-Marie Kassamba, président de l'Union nationale de la presse de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
L'Union européenne s'inquiète d'une augmentation des flux migratoires en provenance d'Afrique après l'abrogation par le Niger d'une loi qui criminalisait le trafic de migrants dans le pays. C'est un reportage de Henri Riguel, le récit est de Rosine Monezero.
Agadez, au Niger, une ville du désert du Sahara qui a longtemps été une plaque tournante pour les migrants africains se dirigeant vers la Libye et l'Algérie, puis vers l'Europe. Mais en 2015, au plus fort de la crise des migrants, l'Union européenne a conclu un accord d'aide d'une valeur de plus d'un milliard de dollars avec le Niger, lié à la répression de la migration irrégulière
par le gouvernement. Alia Farli, conseiller allemand des relations extérieures, revient sur cet accord.
Pour renforcer sa capacité de contrôle des frontières et rédiger cette nouvelle loi qui criminaliserait la migration irrégulière et sa facilitation, le travail des passeurs essentiellement.
Quelques 876 trafiquants d'êtres humains présumés ont été poursuivis en vertu de cette loi selon l'Union européenne. Mais en juillet de cette année, l'armée nigérienne a renversé le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum lors d'un coup d'État. Le chef de la junte militaire, le général Abdourahmane Tchiani, a annoncé le mois dernier que le gouvernement abrogeait la loi sur les migrants de 2015 et que toutes les condamnations prononcées en vertu de cette loi seraient annulées. La junte n'a pas donné de raison à cette décision. L'Union européenne a exprimé sa crainte d'un nouvel afflux de migrants. La commissaire européenne aux affaires intérieures, Ylva Johansson, s'est entretenue avec des journalistes à Bruxelles la semaine dernière.
Il y a un risque énorme que cela provoque de nouveaux décès dans le désert, ce qui est le plus préoccupant. Mais cela signifierait aussi probablement que davantage de personnes viendraient en Libye, par exemple, et essayeraient peut-être de traverser la Méditerranée aujourd'hui pour se rendre dans l'Europe.
Les critiques affirment que la loi elle-même a forcé les migrants à emprunter des itinéraires plus dangereux à travers le désert du Sahara. Les médias locaux rapportent que l'abrogation de la loi a été bien accueillie à Agadez et que les trafiquants de migrants prévoient de reprendre leurs activités. Les analystes, eux, affirment que sa mise en œuvre a dévasté l'économie locale. Alia Farli, conseiller allemand des relations étrangères.
Un certain nombre de personnes ont tout simplement perdu leur emploi dans la région. Les passeurs, bien sûr, les personnes qui facilitaient le voyage des migrants, mais aussi un certain nombre de personnes qui bénéficiaient directement ou indirectement de la présence des migrants. Ce sont des gens qui préparaient et vendaient de la nourriture, des gens qui vendaient de l'eau, qui offraient un logement ou tout autre type de service aux migrants.
Avant l'entrée en vigueur de la loi, l'armée nigérienne accompagnait souvent les convois de migrants à travers le désert et exigeait sa propre part des bénéfices, explique Alia Farli.
Il pourrait y avoir un objectif de retour à la situation d'avant 2015 où le trafic de migrants générait des revenus pour l'armée et l'État.
Les analystes estiment qu'il est difficile de savoir à quel rythme les flux de migrants pourraient reprendre, car cela dépend de la situation dans les pays d'origine des migrants et dans les pays de transit au nord du Niger. L'Union européenne a conclu des accords avec certains États d'Afrique du Nord pour lutter contre la migration irrégulière à travers la mer Méditerranée.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Rwanda, le centre Mbutu pour la paix s'efforce d'aider les personnes souffrant de traumatismes psychologiques et de troubles mentaux courants dont la plupart résultent de génocides, de catastrophes naturelles, à mener une vie plus épanouie. Le centre a développé un modèle de guérison sociale basé essentiellement sur la narration et des rituels. Alexandrine Oulognon s'est entretenue avec le docteur Jean Bosco Niyonzima, fondateur et directeur exécutif du Mbutu Center for Peace.
Le traumatisme est la réponse émotionnelle d'une personne à un événement traumatisant comme l'accident, les violences sexuelles, des catastrophes naturelles, mais aussi à une injustice structurelle comme le racisme, la discrimination, la pauvreté, etc. Il y a aussi le traumatisme historique qui découle d'événements historiques tels que les massacres, les génocides, par exemple, l'Holocauste, les camps de réfugiés, l'esclavagisme, le colonialisme, etc., et qui provoque un traumatisme collectif. Et cela peut être caractérisé par la destruction des tissus sociaux.
Comment les expériences traumatiques du passé continuent-elles alors à influencer la santé mentale des générations actuelles, surtout en Afrique?
Vous savez, l'Afrique, c'est une société collectiviste, ce qui est différent des sociétés individualistes occidentales. Alors, ça a une particularité, en fait. En Afrique, les gens se définissent par rapport où ils sont conscients d'une humanité partagée dans laquelle la solidarité active impulse une co-responsabilité de tous les citoyens pour la construction d'un monde meilleur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le concept africain de l'Ubuntu. Maintenant, à cause des événements historiques traumatisants, comme nous l'avons dit, l'esclavage, le colonialisme, des guerres répétées, des violences interethniques ou intertribales, à des pauvretés extrêmes, cela a conduit au traumatisme intergénérationnel. Et au niveau collectif, on remarque souvent cette perte d'Ubuntu, qui est caractérisée par des méfiances entre les gens, perte de dignité, d'estime de soi et d'humanité.
Donc c'est ce qui explique le besoin d'en parler et de trouver surtout des solutions. Vous êtes le directeur exécutif de Ubuntu Center for Peace. Quelles sont les actions que vous menez dans ce sens pour lutter contre ces traumatismes?
Donc, Ubuntu Center for Peace, on a développé un modèle, en fait, parce que nous, on rêve d'une guérison sociale ou guérison collective. Et surtout, nous basons sur l'histoire de massacres et de génocides que nous avons vécu. C'est un modèle qui intègre les techniques corporo-spirituelles basées sur la respiration. Et cela, on l'intègre avec la narration collective dans des groupes bien structurés, puis les rituels.
Docteur Jean Bosco Niyonzima, directeur exécutif du Centre Ubuntu pour la paix.
This is the voice of America. Washington, D.C.
Reprise ce vendredi à Dubaï des négociations sur le climat qui doivent théoriquement, d'ici mardi, accoucher d'un texte final. Les discussions sur les énergies fossiles et le financement des dommages climatiques prennent une place centrale pour connaître les perspectives sur ces enjeux et la position des États-Unis. Eric Manirakiza a joint à Dubaï Juan William Schmonsiz. Il est le porte-parole de langue française du département d'État et directeur du Centre médiatique régional pour l'Afrique.
Aux États-Unis, nous nous sommes engagés à réduire la pollution par les gaz à effet de serre d'au moins 50% d'ici 2030. Nous sommes aussi en train de tripler la production éolienne et de multiplier par 7 à 8 la production solaire avant la même année et de produire 100% d'électricité propre d'ici 2035. Et nous aidons des dizaines de pays partenaires à atteindre leurs propres objectifs aussi, leurs propres objectifs climatiques, en passant à une énergie propre, y compris une énergie nucléaire sûre et sécurisée. Nous avons également lancé des partenariats pour réduire les émissions du secteur du transport maritime et mettre un terme à la déforestation d'ici 20 ans. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et c'est ça le grand enjeu de la COP 28.
Comment l'administration Biden évalue-t-elle l'importance du fonds adopté pour financer les pertes et dommages liés au climat pour les pays vulnérables? Et quel rôle les États-Unis comptent-ils jouer dans sa mise en œuvre?
Les États-Unis se félicitent des recommandations du comité de transition visant à mettre en place un nouveau fonds pour répondre aux pertes et aux dommages du changement climatique. L'adoption de ces recommandations le premier jour de la COP a été suivie par plus de 700 millions de dollars d'engagement immédiat de la part des pays développés et en développement. Comme convenu lors de la COP 27, le nouveau fonds s'inscrit dans une mosaïque plus large d'accords de financement qui aident les pays les plus vulnérables à répondre aux impacts climatiques. Nous avons également défendu l'inclusion des peuples autochtones, de la société civile et des migrants climatiques au sein du conseil d'administration du nouveau fonds. Et cela n'a pas été réalisé sans la coopération de nos partenaires au sein de la COP.
Quelles initiatives ou mesures les États-Unis envisagent-ils de soutenir pour répondre aux préoccupations des ONG concernant les communautés locales en Afrique lors de cette conférence sur le climat, notamment en relation avec les énergies fossiles?
Pour citer quelques exemples, lors de la COP 28, le gouvernement américain a annoncé 100 millions de dollars de nouveaux investissements pour l'initiative Feed the Future.
Voilà, c'était Johan William Schmonsiz, porte-parole de langue française du département d'État. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.